Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Je reçois au micro frère Baptiste de l'Assomption qui est Carme. Bonjour frère Baptiste.
Bonjour.
J'aimerais bien vous interroger, frère Baptiste, puisque nous allons découvrir, et puis moi j'invite bien sûr nos auditeurs à lire le premier livre des rois et puis le deuxième livre des rois. Élie est un de ces prophètes de l'Ancien Testament avec quelques miracles.
Oui.
Et il y a 5 grands miracles du
C'est
prophète.
C'est ça, hein, oui, tout
voilà.
à fait.
Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur, on a besoin d'entendre aussi ces miracles.
Tout à fait, oui. Oui, parce que ces miracles, alors le plus connu, c'est justement ou en tout cas le plus marquant, c'est celui qui intervient dès le début, c'est qu'il fait venir la sécheresse sur le pays d'Israël qui, depuis quelques années déjà, s'est détourné de Dieu. Hein. Le contexte, c'est justement un peuple d'Israël qui... Alors, c'est l'Israël du Nord qui a été séparé du royaume de Juda et qui, justement, a introduit par le mariage d'Akab avec Jézabel, le culte à des divinités étrangères. Et donc, ça met Élie hors de lui, très probablement, et comme signe, justement, de cet abandon du Seigneur par son peuple, eh bien, Élie va faire venir la sécheresse sur le peuple. Ensuite, il est accueilli par, justement, ça aussi, c'est assez cocasse, parce que le Seigneur l'envoie justement à Sarepta qui fait partie justement de Tyr et Sidon du territoire d'où vient Jézabel, celle qui a perverti le peuple d'Israël. Et donc l'amour des ennemis, on pourrait dire que ça commence dès l'Ancien Testament puisque Élie va trouver refuge chez cette veuve qui voit son fils mourir et qu'Élie va prendre dans ses bras et pour qui il va intercéder et le faire revenir à la vie. Et donc là aussi, on voit qu'Élie, par sa prière puissante, est le signe d'un Dieu qui, effectivement, donne la vie et répond aux cris de son prophète. Et on pourrait dire que ce miracle d'Élie lance d'autres miracles qui seront ceux d'Élisée, mais qu'on retrouvera aussi dans le Nouveau Testament à travers Jésus ou même Pierre, hein, qui par leur prière redonne la vie, en particulier à des enfants. Donc ça, c'est un autre miracle d'Élie. Ensuite, sur le mont Carmel, il fait descendre le feu du ciel. Dieu répond à la prière d'Élie et manifeste sa puissance. Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce Élie qui avait obéi à Dieu ou Dieu qui obéit à Élie? On reviendra dessus peut-être.
Oui.
Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu répond, fait le miracle. Et ce miracle est signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le peuple reconnaît cette souveraineté. Il y a évidemment ensuite le retour de la pluie à travers le signe d'un petit nuage, comme justement signe de la grâce qui est accordée par Dieu à tout son peuple. Et enfin, il y a cette fameuse traversée des eaux. Élie prend son manteau, accompagné d'Élisée, frappe le Jourdain, les eaux se séparent. Et donc, on se souvient justement de cette traversée de la mer Rouge par Moïse. Et c'est justement dans cette mémoire qu'Élie pose ce geste. Et il va traverser le Jourdain d'une manière miraculeuse, comme signe de cet enlèvement dans le ciel qu'il va vivre juste après. Un char de feu arrive, le sépare d'Élisée et il est emporté dans le tourbillon jusqu'au ciel. Traverser les eaux, en quelque sorte, c'était déjà le symbole de cette autre traversée qui est l'entrée d'Élie dans le ciel. Donc on voit bien que la vie d'Élie est traversé par des miracles qui sont souvent le signe de la présence du Seigneur à ses côtés. Mais justement, il y a toute une réflexion sur le statut du miracle parce que on verra que l'œuvre peut-être la plus puissante qu'Élie va réaliser est justement celle dont on parlait à notre dernière rencontre, c'est-à-dire justement une œuvre plus cachée par laquelle Élie est transformé en passant par le creuset de l'épreuve et il pourra se mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans la voix de fin silence et il pourra consentir à cette mission qui est justement de devenir d'être à la source plutôt d'une lignée prophétique. Vous voyez, donc il y a les miracles apparents, grandioses d'Élie, et puis il y a une œuvre plus profonde, plus cachée, qui est liée à son obéissance.
Comment expliquer ces grands miracles, ces 5 grands miracles d'Élie?
Oui, alors évidemment, ils sont importants et Dieu consent à les réaliser, hein, parce que on pourrait dire qu'il y a urgence. Il s'agit de ramener le peuple qui s'est détourné de Dieu, et cette urgence justement habite le cœur d'Élie,
auquel Élie brûle. Il est passionné.
Il brûle de zèle.
Il est dévoré.
Il est dévoré de zèle.
C'est ça.
Et justement, avec ce zèle là, on voit bien qu'il a quelque chose de profondément accordé à Dieu. Il vit dans son intimité. Et justement, c'est en raison de cette union d'Élie à Dieu que ces miracles sont accordés et qu'ils vont produire déjà un certain fruit. Un fruit justement de prise de conscience par la sécheresse, de bénédiction par la résurrection du fils de la veuve, qui reconnaîtra que justement la parole de Dieu est dans la bouche d'Élie vérité. Prise de conscience de la transcendance et de la présence de Dieu au milieu de son peuple sur le Carmel, au Carmel, et puis aussi prise de conscience de cette destinée qui nous est donnée à chacun, justement, d'être appelé à entrer dans le ciel. Donc ça, c'est la traversée du Jourdain, l'entrée d'Élie dans le ciel. Donc ces signes miraculeux d'Élie sont toujours une manifestation de la présence de Dieu par l'un des aspects par lequel il veut se rendre présent.
Alors ces manifestations, ces grands miracles accordés par Dieu, Dieu accorde une miséricorde pour le peuple à travers ces miracles. Comment interpréter toutes ces bénédictions, puisqu'on parle de miracles et vous parlez des bénédictions? Dieu, à travers chacun de ces miracles, manifeste la puissance, sa puissance.
Oui,
c'est
ça. Et en même temps, c'est pour ça que je reviens toujours un peu dessus, parce que ça me semble important. On voit bien qu'il y a tout de même une sorte de réflexion sur le statut du miracle. C'est-à-dire que le miracle n'est pas ce qui va permettre une œuvre, l'œuvre la plus féconde de Dieu. Et ça peut justement nous poser question à nous aussi, c'est-à-dire par quoi sommes-nous attirés dans notre relation à Dieu ? Est-ce que c'est le merveilleux, justement, et les éventuels miracles qui peuvent ponctuer la vie de tel ou tel spirituel ? Mais attention, parce qu'il y a parfois aussi de faux miracles. On voit bien d'ailleurs dans
Et de faux prophètes.
Et de faux prophètes. Et des prophètes, ça c'est la mise en garde du Deutéronome, de faux prophètes qui peuvent produire des signes, apparemment venant de Dieu.
Et des prodiges.
Et des prodiges. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, c'est pas le feu qui descend du ciel qui, dans les évangiles, va être retenu du ministère d'Élie, mais c'est plutôt les miracles qui sont au service de la vie. Donc Jésus ne va pas reproduire, par exemple, ce feu qui descend du ciel, il va plutôt mettre en garde ses apôtres qui voudraient faire descendre le feu du ciel sur des villages de Samaritains. Et donc, mais par contre, Jésus va se mettre sur les pas d'Élie, ou plutôt va accomplir la figure d'Élie en ressuscitant le fils de la veuve de Naïm. Donc on pourrait dire que dans la vie d'Élie, il y a certains miracles qui ne sont pas sans ambiguïté, en particulier ceux dans lesquels nous n'avons pas d'envoi en mission explicite de la part de Dieu. Par exemple, sur la montagne du Carmel, quand on regarde bien la parole que Dieu dit à Élie, Dieu dit seulement à Élie, « Va te montrer à Achab et je ferai venir la pluie sur la face de la terre. » Donc on voit bien qu'effectivement, il y a un miracle qui doit s'opérer, c'est le retour de la pluie comme signe de bénédiction pour tout le peuple. Mais on a l'impression que justement, c'est ce petit peu qui est demandé à Élie qui va être difficile pour lui de réaliser. Et se montrer à Achab, c'est un petit peu aussi s'humilier devant lui. Et plutôt que de faire simplement cette petite chose qui lui est demandée, on peut se demander si Élie ne cherche pas à organiser un grand rassemblement qui va être plus grandiose, plus manifeste, peut-être plus efficace à ses propres yeux à lui, mais finalement moins efficace sur le long terme pour la conversion du peuple. Vous voyez, donc il y a derrière la simplicité apparente de la vie d'Élie et les miracles qui la ponctuent, toute une réflexion justement sur le statut du miracle et finalement la véritable, ou une obéissance peut-être plus profonde que Dieu attendrait de son prophète et à laquelle Élie ne consent qu'après être passé par le creuset de l'épreuve, c'est le passage au désert.
C'est le passage au désert, on va y venir.
Bien
on
sûr.
A encore quelques jours devant nous dans cette série pour rejoindre cette période où Élie connaît la tempête, le tsunami.
Exactement.
Il va être conduit dans ce désert où il aura son propre combat, mais on en reparlera. Si vous voulez bien, je vous invite à vous retrouver dès demain dans cette même émission. Nous ouvrirons avant de partir au désert, mais dans le désert, il y a aussi ces rencontres angéliques. Je veux bien qu'on aborde aussi, toujours dans cette figure du prophète, ces différentes rencontres angéliques dans ce beau parcours de ce grand prophète. À demain, même lieu, même heure.